Good morning, Mr. President.
Good morning.
Bonjour, Monsieur le Président. Simple question to start with.
Une question toute simple pour commencer. Après la chute d'Alep il y a deux mois, peut-on dire que vous avez gagné la guerre ?
Non, je ne crois pas que l'on peut parler d'avoir gagné la guerre avant d'avoir battu les terroristes partout en Syrie. Il s'agit seulement d'un pas important sur le chemin qui va nous conduire à battre et éliminer le terrorisme dans notre pays. Mais je pense que ce sera un long chemin. Et ce, pour une seule et simple raison, les terroristes ont le soutien de nombreux pays occidentaux, y compris la France, le Royaume-Uni, ainsi que la Turquie, l'Arabie Saoudite ou le Qatar dans notre région.
Vous parlez d'un long chemin, mais pouvez-vous résumer d'un point de vue militaire les objectifs qui vous restent à atteindre ?
Il est certain que lorsque je parle d'éliminer les terroristes de notre pays, cela veut dire reconquérir chaque pouce de notre territoire, afin de le ramener sous le contrôle du gouvernement, car il incombe au gouvernement de reprendre le contrôle de tout le territoire.
Mais de quelle ville en particulier parlez-vous ?
Vous voulez dire après Alep ? Nous poursuivrons évidemment notre campagne dans la zone qui entoure Alep afin d'immuniser la ville contre toutes nouvelles attaques terroristes provenant de l'ouest et du nord qui reçoivent un soutien direct de la Turquie, de l'armée turque.
Mais la prochaine étape, c'est Idlib ? C'est ce qu'on dit en tout cas, que la prochaine grande bataille sera Idlib.
Ce pourrait être Idlib, ce pourrait être Raqqa, ça pourrait être n'importe où. Maintenant, tout dépend de l'évolution de la situation au quotidien, car on peut changer de plan en fonction de cela. Nous n'avons pas établi ce plan avant d'avoir terminé les opérations dans la ville et la campagne d'Alep. Il est donc encore tôt de parler de la prochaine étape. Tout dépend des batailles dans les différents secteurs.
Mais la situation maintenant est bien meilleure pour vous qu'elle n'a été sur un plan militaire, en tout cas.
Bien sûr, libérer chaque lieu des terroristes signifie que la situation s'améliore. Mais pour nous, cela ne suffit pas.
Monsieur, pour la France, la menace terroriste principale, c'est Daesh. Ça ne fait aucun doute. Pour vous, tous les groupes armés, ou en tout cas la plupart, sont terroristes. Pourquoi Daesh ne représente-t-il pas une menace spécifique pour vous ?
Ma réponse se constitue de deux points. Premièrement, c'est que ce n'est pas nous, en tant que gouvernement, qui les qualifions de terroristes, mais c'est la loi qui les considère ainsi. De même, le droit international. Quiconque porte une arme dans mon pays ou dans le vôtre et se met à tuer des gens et à détruire des biens est un terroriste. C'est un concept international. Et donc, nous ne sommes pas les seuls à le définir ainsi. En ce qui nous concerne, et selon cette même loi, quiconque souhaite rendre les armes cesse d'être considéré comme un terroriste. Maintenant, si l'on parle de Daesh, je pense que lorsque vous dites que les Français ou les Européens s'inquiètent de Daesh, ça veut dire qu'on ne comprend pas bien la situation. Daesh est une conséquence et non le problème d'origine. Le problème réside dans l'idéologie de Daesh, qui est la même idéologie pour le Front al-Nosra et pour de nombreuses autres organisations qui adoptent une idéologie similaire en Syrie et peut-être aussi en Libye et dans d'autres pays. Vous devriez donc vous inquiéter de ces terroristes qui n'ont que faire d'appartenir à Daesh ou à Al-Nusra. Ils mettent en œuvre ce que leur idéologie leur commande de faire, c'est-à-dire essentiellement des actes terroristes.
Alors pour vous, il n'y a aucune différence entre Daesh et ses autres groupes ?
Absolument. En Syrie, toutes ces organisations ont les mêmes racines. Les mêmes personnes qui faisaient partie de Daesh appartenaient auparavant à Al-Nusra. Maintenant, ils passent d'une organisation à une autre, car toutes ces organisations ont la même idéologie, l'idéologie wahhabite, qui est l'origine de ce terrorisme.
Tous ces terroristes sont les mêmes ?
Oui, bien sûr, et ce conformément à la loi, ce n'est pas moi qui le dis. Comme je viens de le dire, conformément à la loi et au droit international, personne, dans aucun pays, n'a le droit de détenir des armes, excepté l'armée et la police. Je pense que c'est la même chose en France, à moins que je ne me trompe, dites-le-moi. Mais je pense que c'est le cas partout dans le monde.
Donc Raqqa, qui est le fief de Daesh, où les attaques terroristes en France ont été préparées, Raqqa n'est pas une cible prioritaire pour vous.
Non, et encore une fois, ces attaques n'ont pas nécessairement été préparées à Raqqa. Raqqa n'est qu'un symbole de Daesh.
Un symbole ?
Il y a une présence de Daesh près de Damas. Ils sont partout. Ils sont à Palmyre en ce moment et dans la partie est de la Syrie. Alors non, il ne s'agit pas que de Raqqa. Les priorités sont partout et cela dépend de l'évolution des combats. Mais pour nous, tout compte. Raqqa, Palmyre, Idlib, tout compte.
Vous vous présentez comme le rempart principal contre le terrorisme. Il y a beaucoup de gens, chez nous en particulier, qui diraient que l'État islamique d'un côté et votre régime de l'autre sont en fait les deux visages d'un même mal, qui cherche à écraser toute forme d'expression libre et démocratique dans ce pays. Que leur répondez-vous ? C'est une vraie question.
Premièrement, nous ne sommes pas un régime. Nous sommes un État avec des institutions. Deuxièmement, c'est bien là la diabolisation de la Syrie, de son gouvernement syrien, de son armée par les principaux médias et les milieux politiques occidentaux qui ont soutenu au tout début ces soi-disant modérés. Ils ont dit au début qu'il s'agissait de manifestants pacifiques. Après quoi, ils ont dit qu'ils n'étaient plus si pacifiques et qu'ils étaient des combattants, mais toujours modérés. Mais en fait, ils ne réalisaient pas qu'ils soutenaient la base même d'Al-Qaïda et de Daesh. Voilà pourquoi ils disent maintenant que nous faisons la promotion de ces terroristes, que nous les utilisons, et pour être franc avec vous, comme une alternative pour que l'Occident n'ait plus le choix. Premièrement, l'Occident n'a pas à choisir entre moi et Daesh, c'est à mon peuple de le faire, parce que c'est une question purement syrienne. Donc nous n'avons que faire de ce que les responsables occidentaux pensent de tout cela. Ils feraient mieux de s'inquiéter de leur propre population, de les protéger des attaques terroristes qui ont lieu à cause de leur politique.
Monsieur, bien sûr, nous sommes extrêmement choqués, et en particulier en France, par les horreurs du terrorisme. Mais nous sommes aussi horrifiés par ce rapport d'Amnesty International, publié il y a quelques jours, la semaine dernière. Il s'agit de la prison de Sednaya. C'est pas très loin d'ici, pas loin de Damas. 13 000 prisonniers exécutés. Des pendaisons massives. Des actes de torture. Amnesty parle, et là je lis le rapport, hein, d'un lieu où l'État syrien massacre silencieusement son propre peuple. Monsieur le Président, tout est-il permis pour gagner une guerre ? Pouvez-vous faire ce que vous voulez ?
Non, tout est légal. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi.
Mais d'après le rapport d'Amnesty, nous ne sommes pas dans la légalité.
Non, il y a une différence entre le fait dont on parle, vous et moi, des faits en Syrie, ou au contraire d'allégations. Si vous voulez évoquer des allégations, on peut passer énormément de temps à le faire, car les allégations sont interminables. Tout le monde peut dire ce qu'il veut et peut en discuter. Mais dans ce cas précis, on ne parle pas de faits. Maintenant, si vous voulez parler d'Amnesty International, allons-y. Parce que c'est une organisation mondialement connue. Il est honteux qu'elle se mette à bâtir un rapport sur la base de simples allégations. Si vous venez devant un tribunal dans votre pays, et vous en avez des tribunaux, vous avez un système judiciaire. Est-ce que ce tribunal prendrait une quelconque décision sur la base d'allégations, ou est-ce qu'il exigerait des preuves ? Ce rapport est bâti sur des allégations. Pas un seul document, pas une seule preuve. Ils n'ont même pas parlé de 13 000 morts, ils ont dit entre 5 000 et 13 000. On passe du simple au double. Cela veut dire qu'il n'y a pas de précision. Aucun nom n'est mentionné parmi les victimes supposées. Sur ces milliers, il n'y en a que 36, et il y a plusieurs lacunes. Ils ont dit par exemple que le grand moufti avalise les exécutions. Or, les personnalités religieuses en Syrie n'ont strictement rien à voir avec la procédure judiciaire. La peine de mort est légale en Syrie. Cela fait partie du droit syrien depuis l'indépendance. Le gouvernement a donc le droit d'exécuter n'importe qui, conformément à la loi. Pourquoi le ferait-il alors de manière illégale ?
Mais vous pouvez affirmer qu'on ne pratique pas la torture dans cette prison de Sednaya, comme Amnesty le dit ?
La question est, pourquoi torturer ? Je veux dire commettre des actes de torture. Pourquoi ? Dans quel but ? Qu'est-ce que nous y gagnons ? Juste par sadisme ? Sommes-nous des sadiques ? Pourquoi le ferions-nous ? Pour obtenir des informations ? Nous avons toutes les informations qu'il nous faut. Donc nous ne recourons pas à la torture. Ça ne fait pas partie de notre politique. Pour une simple raison, si nous commettons de telles atrocités, cela sera dans l'intérêt des terroristes et fera leur jeu, et ils seront les gagnants. Or, il s'agit de gagner les cœurs dans la population syrienne. Si nous avions commis de telles atrocités à n'importe quelle étape de ce conflit, nous n'aurions pas le soutien populaire que nous avons au bout de 6 ans. Mais si l'on revient à ces rapports, il n'y a pas un seul fait précis. Il faut qu'ils apportent des preuves, et ils ne peuvent pas le faire.
Mais Amnesty suggère d'envoyer des observateurs internationaux dans vos centres de détention, précisément pour collecter des preuves, ou pour prouver que vous avez raison et qu'aucun crime n'y est commis. Que répondez-vous à cette proposition ?
Je crois qu'il vaut mieux ouvrir une enquête sur Amnesty elle-même, lorsqu'elle adopte un rapport fondé sur des allégations. C'est une honte. Honte à une telle organisation qui n'a jamais été impartiale, mais qui est toujours parti pris.
Et les témoignages d'anciens gardiens de prisonniers ?
C'est une question de souveraineté. S'il y a des allégations chaque jour et des rapports de ce type chaque jour, on peut passer tout son temps à recevoir des délégations étrangères. Est-ce que vous accepteriez, si vous le demandez à votre gouvernement, qu'une délégation syrienne soit envoyée chez vous pour enquêter sur les raisons pour lesquelles votre armée, sous Sarkozy puis sous Hollande, a attaqué les Libyens et tué des dizaines et des centaines de milliers d'entre eux? Est-ce que nous pouvons aller enquêter sur l'argent que Sarkozy a reçu de Kadhafi? C'est une question de souveraineté. Non, nous ne permettrons pas à Amnesty de venir ici, sous aucun prétexte. Je ne parle pas de ce rapport, mais en tant que média grand public, vous devez faire votre enquête également. Sur quoi est-il basé ce rapport? Si c'est juste des allégations, vous ne pouvez pas le prendre au sérieux.
Donc, votre réponse est non à la visite d'observateurs internationaux.
Non, définitivement non. Nous n'avons que faire d'un tel rapport infantile, basé sur du néant. Rien que des allégations. Ils disent avoir interrogé quelques témoins qui sont des opposants et des déserteurs. C'est donc un rapport impartial.
Mais vous reconnaissez qu'il y a des exécutions officielles, légales, en Syrie.
Ça existe depuis l'indépendance. La peine de mort fait partie de la loi syrienne en cas de meurtre. Ça n'a rien à voir avec cette crise, ni avec ce rapport ou cette prison. Il y a une manière légale de procéder, cela s'appelle la voie judiciaire.
To do it, and it's a judicial way. So let's talk about the relation between France.
Parlons maintenant des relations entre la France et la Syrie. D'ici quelques semaines, un nouveau président sera élu en France. Et parmi les débats que nous avons chez nous, il y a celui qui concerne la reprise du dialogue avec votre gouvernement. Est-ce que vous espérez une relance des relations diplomatiques avec la France?
Ce qui est important, ce ne sont pas nos relations diplomatiques. Il s'agit essentiellement et en premier lieu de la ligne politique de la France. Si nous n'avons pas de relations diplomatiques, ce n'est pas un gros problème pour le moment. Même si pour le long terme, il faudrait avoir de bonnes relations avec n'importe quel pays, y compris des relations diplomatiques.
Eh bien, parlons de la ligne politique de la France.
Exactement. La politique de la France, depuis le premier jour, a consisté à soutenir les terroristes en Syrie et est directement responsable des tueries dans notre pays.
Mais comment pouvez-vous dire cela? C'est une accusation très sérieuse contre la France. Comment pouvez-vous dire que la France soutient le terrorisme?
Ce sont eux qui le disent. Je ne les accuse pas. Ils ont dit à plusieurs reprises avoir soutenu la guerre. Hollande a même récemment déclaré que cela avait été une erreur de ne pas avoir déclenché la guerre en 2013. Ce sont eux qui ont envoyé de l'armement à ce qu'ils appellent des groupes modérés et qui sont en fait des terroristes. Ce sont eux qui l'ont dit, pas moi. Les Américains ont tenu les mêmes propos, les Français aussi. Alors si vous revenez aux déclarations de vos dirigeants durant ces 2, 3 ou 4 dernières années, vous trouverez bien plus d'une déclaration faite par des responsables français. Ils s'accusent eux-mêmes.
François Hollande est sur le point de quitter le pouvoir en France. Et vous êtes toujours là. Avez-vous d'une certaine façon remporté ce bras de fer qui vous opposait à François Hollande?
Il ne s'agit pas de moi et de lui. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Je ne l'ai jamais rencontré. Pour être franc, je ne me soucie aucunement de lui. Et avec ses 11% de popularité, ce que je pense s'appelle « toucher le fond » comme jamais aucun de ses prédécesseurs dans l'histoire de France. En fait, il s'agit avant tout d'une affaire entre moi et les terroristes, et entre moi et quiconque soutient les terroristes. Jusqu'à maintenant, les terroristes n'ont pas été en mesure de gagner cette guerre, mais ils détruisent la Syrie. Ils ont tué des centaines de milliers de Syriens. Alors je ne peux pas dire que j'ai gagné la guerre. Ils n'ont pas réussi à accomplir leur projet, oui, mais pour le moment, nous n'avons pas encore terminé notre guerre. Je ne peux donc pas dire que j'ai gagné cette guerre.
Est-ce que vous suivez la campagne électorale française qui a lieu en ce moment chez nous?
Nous la suivons dans les grandes lignes, pas dans les détails. En fait, nous ne misons pas sur les élections dans les pays occidentaux pour la simple raison que nous ne prenons pas les dirigeants occidentaux au mot quand ils font campagne. Ce qu'ils disent, c'est pour gagner les électeurs et non dans l'intérêt de leur pays. C'est un fait, je vous parle franchement.
I'm being frank with you.
So you see even the difference. Mais vous voyez quand même une différence entre la droite, la gauche en France sur le sujet des relations avec la Syrie, non?
You can feel it, but oui, on peut constater une différence. Mais en fin de compte, l'important, c'est bien la politique du président élu. Est-ce qu'elle est conforme à ce qu'il prenait avant son élection ou non? Telle est la question. Donc, nous ne misons pas là-dessus. Évidemment, on préfère quelqu'un qui n'est pas fauteur de guerre. C'est ce que nous préférons. Mais on n'en sait rien.
Par exemple, qui a votre préférence parmi ceux qui rejettent la guerre?
Je ne vois pas de grosse différence en fait pour le moment, mais encore une fois, je ne parie pas sur le discours des uns des autres. De ce côté-là, il n'y a pas vraiment de différence.
Et avez-vous des contacts avec certains des candidats?
Non, nous n'avons établi de contact avec aucun d'entre eux.
Et avec nos services de renseignement?
Dans certains cas, nous avons eu des contacts indirects.
Avec les services français?
Oui.
Et vous, personnellement, avez-vous eu des contacts avec nos services?
En fait, lors de la visite d'une délégation parlementaire en Syrie, un des membres de la délégation était du service de renseignement. Donc ces contacts existent. Bien sûr, le gouvernement français a déclaré qu'il s'agissait d'une délégation parlementaire, mais qu'il n'était pas concerné et qu'il les approuvait. Ce n'est pas vrai. Il y a bien entendu plusieurs canaux de communication.
Un pays a déjà changé de président. Ce sont les États-Unis. L'une des premières décisions de Donald Trump, contestée, c'est le Muslim Ban qui a pour but d'interdire l'entrée aux États-Unis de citoyens de plusieurs pays musulmans, dont la Syrie. En tant que citoyen syrien, en tant que président de la Syrie, ressentez-vous ici une forme d'humiliation?
Non, ce n'est pas le peuple syrien qui est visé ici, ce sont les terroristes qui pourraient s'infiltrer à travers certains immigrants venus à l'Ouest. Et cela s'est déjà produit en Europe, notamment en Allemagne, et il risque de se reproduire aux États-Unis. Je pense que le but de Trump est d'interdire l'entrée à ces gens-là. Alors il s'y est pris à sa manière. Ensuite...
Alors, il s'est pris de la bonne manière.
Non, je parle de quelque chose sur lequel on peut être d'accord ou non en tant que personne, mais en tant que président, je ne m'inquiète pas là-dessus. Mon souci à moi, c'est de pouvoir rapatrier les Syriens en Syrie, pas de les envoyer aux États-Unis. Je ne serais pas heureux de les voir émigrer vers d'autres pays. Ce qui me rend heureux, c'est qu'ils puissent revenir en Syrie, parce qu'ils veulent y revenir, car la majorité des Syriens est partie à cause du terrorisme et en raison de l'embargo occidental. Alors, si je veux agir sur cette décision, je demanderai à Trump et aux pays occidentaux de lever l'embargo et d'arrêter de soutenir les terroristes. Il n'y aurait alors plus de problème sur ce point, il n'y aurait ni immigrants ni terroristes qui s'infiltrent parmi les immigrants. Par ailleurs, et c'est un autre point important, ce n'est pas parce que l'on se soucie du sort des Syriens ou d'autres pays qu'on soulève tout ce tapage autour des décisions de Trump. C'est parce qu'on veut utiliser notre cause ou notre problème ou notre conflit pour alimenter leur conflit avec Trump. D'autres décisions ont été prises par Obama il y a quelques mois sur le même sujet. Les médias dominants aux États-Unis n'en ont pas parlé. Ils ont seulement commencé à en parler lorsque Trump a fait son annonce d'une manière aussi flagrante.
Oui, donc vous vous sentez plus à l'aise, vous, avec Donald Trump qu'avec Barack Obama?
Non, je ne peux me sentir à l'aise que lorsque j'aurai vu sa politique vis-à-vis de la Syrie. Je ne l'ai pas encore vu. Encore une fois, il faut être prudent avec chaque dirigeant occidental parce qu'ils peuvent dire une chose le matin et faire le contraire le soir. Ou faire une chose le matin et son contraire le soir. Ils ne s'engagent pas, ils sont très pragmatiques, au point de marchander leurs valeurs. Je dirais plutôt que leur politique ne repose pas sur les valeurs.
Il y a au moins quelque chose qui n'a pas changé jusqu'à présent, c'est le désengagement continu des Américains dans cette région. C'est assez évident. Une deuxième série de négociations sur l'avenir de la Syrie débute, par exemple, en ce moment, à Astana, au Kazakhstan. Et c'est assez frappant, les pays occidentaux sont totalement hors jeu, ils sont absents du tableau. Est-ce vraiment une bonne chose pour l'avenir des négociations et les perspectives de paix dans la région?
Non, plus le soutien d'un processus politique est grand, mieux c'est. Mais les pays occidentaux qui ont été impliqués dans ces processus, notamment la France et le Royaume-Uni, ont perdu une chance d'accomplir quoi que ce soit à Genève et à deux reprises. Ils n'ont rien réussi parce qu'ils soutenaient précisément ces groupes représentant le terrorisme contre le gouvernement. Leur but n'était pas de faire la paix en Syrie. Ils voulaient plutôt utiliser le cadre de l'ensemble du processus pour atteindre leur but.
Mais le fait que la destinée du Moyen-Orient soit parrainée par deux pays, l'Iran et la Russie, qui n'ont pas un bilan démocratique fantastique, est-ce une bonne chose?
Encore une fois, plus il y a de pays impliqués, mieux c'est. Ce n'est pas seulement notre vision des choses, c'est aussi celle des Russes. D'ailleurs, ils ont invité de nombreux pays à y participer et à les aider à combattre le terrorisme et à soutenir ce processus politique. Cependant, les Occidentaux se sont isolés, mais pas l'Iran ni la Russie. Les pays occidentaux étaient très passifs vis-à-vis de ces initiatives. Par exemple, où sont-ils par rapport à Astana? Les Russes leur ont-ils dit de ne pas venir? Non. Ce sont eux qui ont choisi de ne pas y participer.
Donc l'Iran et la Russie sont des promoteurs de paix et les Occidentaux des fauteurs de guerre, c'est ça?
Exactement, à 100%.
Continuons à parler de la Russie. Est-ce que vous diriez que Vladimir Poutine est, en fin de compte, le vrai décideur dans la région, et même dans votre pays, en Syrie?
Non, il ne l'est pas. En Syrie, c'est nous qui prenons les décisions. Quant aux autres pays, je ne peux pas parler en leur nom. Les Russes respectent notre souveraineté à chaque étape qu'ils ont franchie, qu'elle soit d'ordre stratégique ou tactique, ce fut en coopération avec la Syrie. Ils n'ont jamais rien fait sans nous consulter. Ils fondent leur politique sur des valeurs et sur leurs intérêts, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Alors non, nous sommes les décideurs.
Mais diriez-vous que sans la Russie, votre gouvernement se serait effondré il y a déjà longtemps ?
C'est une question purement hypothétique. Personne ne peut prévoir les résultats de la guerre, car par définition, la guerre est fluctuante. Bien entendu, il est sûr que sans le soutien des Russes, les choses auraient été pires. Mais jusqu'à quel point, nul ne le sait. Je ne peux pas vous dire si le gouvernement aurait tenu ou se serait effondré. Mais il est certain que le soutien des Russes a été crucial dans l'affaiblissement de Daesh et du front al-Nosra. Parce que ces groupes s'étaient mis à s'entendre quand la coalition américaine a commencé ses attaques, sa campagne cosmétique. Et ils ont progressé jusqu'à ce que les Russes sont intervenus et les ont poussés à se rétrécir. C'est une réalité, c'est un fait.
Êtes-vous frappé par le fait qu'il y a quelques années, la plupart des observateurs, des analystes disaient que vous n'alliez pas durer très longtemps au pouvoir? Et maintenant, surtout après Alep, beaucoup de gens s'accordent sur le fait que vous puissiez rester en place. Alors la question est la suivante. C'est la question de votre maintien au pouvoir, dont on discute en ce moment dans les négociations d'Astana. Dans nos pays, lorsqu'un homme politique a un mauvais bilan, en général, il ne reste pas en place très longtemps. Après 17 ans au pouvoir, 6 années de guerre, plus de 300 000 morts, un pays détruit et divisé, diriez-vous que, sur un plan moral, et non pas sur un plan légal, mais bien moral, diriez-vous que ce bilan vous autorise à rester au pouvoir, quelle que soit l'issue des négociations en cours?
Vous êtes bien au courant de ces terroristes qui ont commis ces attaques en France l'année dernière? Vous vous souvenez que la police avait abattu certains d'entre eux? Diriez-vous à ces policiers qu'ils sont des tueurs ou des sauveurs, et pourtant ils ont tué? C'est la même chose pour un médecin qui amputerait une jambe parce qu'elle a la gangrène. Diriez-vous qu'il a commis une atrocité ou qu'il a sauvé la vie de son patient? Il s'agit donc de connaître la raison de l'acte. Dans notre cas, nous combattons le terrorisme pour protéger le peuple. Ce n'est pas mon point de vue personnel que je donne là, c'est un devoir qui relève de la Constitution et de la loi. Si je ne le faisais pas, je serais moi-même le tueur, parce que je permettrais aux terroristes de tuer encore plus de Syriens en Syrie. Le devoir de votre armée est de protéger les Français, autrement vos militaires pourraient dire « on ne va pas intervenir de peur d'être traité de tueur ».
Alors vous diriez qu'en fin de compte, vous avez fait tout ce que vous pouviez, tout ce que vous deviez pour votre pays ?
Tout ce que je pouvais, oui, absolument. Ce que je devais, c'est au peuple syrien de le dire parce qu'il peut y avoir des points de vue différents. Mais quant à la question de savoir si c'est un mauvais bilan, et je parle du point de vue moral que vous venez d'évoquer, c'est aussi aux Syriens de le dire, pas aux dirigeants européens de dire si c'est un bon ou un mauvais bilan. Ils disaient tous « Al-Assad doit partir ». Maintenant, ils n'en parlent plus. Je ne me soucie d'aucun de ces deux avis. Je n'en ai jamais tenu compte depuis le tout début. Ce qui compte pour moi, c'est notre combat contre le terrorisme et la lutte contre leur projet visant à détruire notre pays. Ce fut dès le début mon plus grand souci. Quoi qu'ils en disent, c'est du pareil eux-mêmes. Ce bilan est un bilan syrien et nullement un bilan européen.
Mais quand le peuple syrien pourra-t-il dire s'il approuve ou non votre politique? En France, en ce moment, nous avons des élections. Quand seront les prochaines élections en Syrie?
Il y a deux moyens d'y parvenir. Les moyens dont nous disposons actuellement et ceux dont nous disposerons dans l'avenir, à la fin de la guerre. À ce moment-là, on pourra envisager toutes sortes de solutions, les urnes, les élections, tout est possible. D'ici là, le peuple n'a qu'un seul moyen de se prononcer, ou bien soutenir, ou bien ne pas le faire. Après 6 ans de guerre, si ce président a un mauvais bilan aux yeux du peuple syrien, pourquoi le soutiendrait-il? C'est une simple question. Pourquoi devrait-il le soutenir? Pourquoi ne soutient-il pas les terroristes? Et pour revenir à votre question, lorsque vous évoquez 300 000 ou 400 000 morts et que vous dites que c'est le président qui les a tués, c'est comme si vous donniez aux terroristes un certificat de bonne conduite parce que ce serait nous qui aurions tué les gens et eux qui les auraient protégés. Comme si c'était Al-Qaïda, Al-Nusra ou Daesh qui protégeaient les gens et les défendaient. Voilà le fond de la question. Eh bien non. La vérité, c'est que nous nous battons pour le peuple syrien. C'est la raison pour laquelle le peuple syrien a soutenu son gouvernement, son armée et son président.
Merci, Monsieur le Président, d'avoir reçu Europe 1 et TF1.
Merci.